Même ancrer en fait toutes les pièces du marché à travers un outil web très simple. Il va faire un glisser-déposer de tout son dossier avec tous les documents, possiblement 2000. Et ce que l'application va faire, c'est qu'elle va calculer l'empreinte numérique de ces documents. Donc à aucun moment l'application ne verra le contenu du document. Elle va nous travailler uniquement avec l'empreinte numérique du document qui est calculée chez le client. Et ça, l'application va appeler ensuite notre API pour ancrer en fait cette empreinte numérique dans la blockchain Bitcoin. Du coup, le donneur d'ordre fige en fait le document qui fait foi sur le marché, et derrière, il envoie juste un lien par email ou par un autre moyen, un lien HTTP, à tous les contractants qui eux n'auront besoin d'aucune application, ils ont juste besoin d'un navigateur. Eux-mêmes, ils vont avec les documents qu'ils ont sur leur poste, parce que dans le bâtiment, il y a déjà tout un système de partage de fichiers avec des entreprises qui, justement, sont spécialisées dans le stockage et l'échange de fichiers. Ils vont juste vérifier en fait, que la version qu'ils ont chez eux correspond à la version qui a été ancrée à une date. Donc, en fait, toute la revue de contrat, elle est complètement bypassée, et on arrive à des heures, en fait, possiblement, à vérifier qu'on est bien d'accord sur tous les points, à quelques secondes où on va faire un clic, un glisser-déposer, et on sera d'accord. Alors exactement comme dans le cas de la SNCF, quand vient le moment de la signature, aujourd'hui, nous, on a une technologie de signature blockchain qui est prête à l'emploi, qui est déjà en prod depuis quelques mois. Mais la signature, surtout dans ce genre de marché qui est assez critique, avec des garanties décennales, des choses un peu lourdes juridiquement, eh bien ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'imprimer 3 mètres cubes de documents, on va juste imprimer un document qui fera que quelques pages, peut-être quelques dizaines de pages s'il s'agit d'un gros dossier avec beaucoup de chantiers, où on aura juste la liste de documents, les empreintes et l'ancrage blockchain correspondant à chaque document. Et c'est ce document que ces personnes vont signer comme ils veulent. Ils peuvent signer électroniquement, ils peuvent signer en présentiel. Mais au final, on aura raccourci toute la chaîne contractuelle avec un facteur 10 ou 100. En fait. Dans certains cas, c'est énorme le gain de temps et le gain de productivité sur la chaîne contractuelle dans le cadre du bâtiment. Évidemment, on est conscient que des contrats compliqués avec pas mal d'intervenants, pas mal de versions de documents, c'est quand même transverse à plein de métiers. Là, c'était intéressant de le faire dans le bâtiment, parce qu'il y a d'énormes enjeux financiers sur des gros projets, et dans le bâtiment, si on gagne un peu de temps, ben, ça fait ça de moins de retard de travaux après à la livraison. Donc voilà, personnellement, j'aime beaucoup ce cas d'usage, parce que en fait, on a démontré que des entreprises peuvent utiliser Bitcoin. On utilise Bitcoin parce que, pour le coup, on a besoin d'une blockchain ouverte et qu'on a la technologie pour scaler. C'est-à-dire qu'avec notre technologie, on peut gérer des millions de documents par jour si on voulait. Et on prouve que des sociétés peuvent utiliser Bitcoin, qui est à la base pensée comme une monnaie, mais plutôt comme une sorte de notaire géant qui va témoigner d'une vérité numérique datée. Et qui va permettre de réconcilier en fait plusieurs acteurs qui sont pas forcément, qui se font pas confiance entre eux naturellement, on va dire, très simplement et très rapidement avec un outil web classique.
Olivier Senot, vous avez un exemple dans l'automobile, me semble, avec PSA.
Alors parallèlement, donc DocaPost est co-animateur d'un institut de recherche qui s'appelle l'IRT Systemix. Et au sein de cet institut de recherche, avec une vingtaine de partenaires industriels, dont PSA, il y a un peu plus d'un an maintenant, a été décidé de créer un outil, donc sous forme de POC pré-industriel, qui permettrait, l'objectif est de lutter contre la fraude au kilométrage des véhicules d'occasion. Vous voyez, c'est très ciblé. Et cette lutte contre la fraude au kilométrage passe par une inscription dans un registre distribué, donc dans une blockchain, du kilométrage de la voiture tout au long de sa vie. Que ce soit lorsqu'elle a 0 km, qu'elle est livrée au client, quand elle passe chez un concessionnaire, ou sur les modèles récents, à partir du cloud Peugeot qui reçoit tout un tas d'informations de la voiture communicante, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Et puis cet objectif s'est un petit peu élargi, puisqu'on a dit, après tout, si on remonte le kilométrage, on pourrait également remonter l'ensemble des événements survenus autour d'une voiture. Et dans une voiture, il y a quelques événements prédictibles comme les révisions, les pannes et tout ce que l'on peut avoir dans un carnet d'entretien. Donc là, on a étendu le spectre à un carnet d'entretien avec une réflexion en amont sur l'intérêt de le faire et puis sur tous les cas qui sont des effets de bord liés au carnet d'entretien, puisqu'un véhicule d'occasion, on va le revendre. Donc il faut aussi permissionner l'accès aux informations au propriétaire actuel de la voiture, les cacher au propriétaire suivant, ou pas, en fonction des informations. Et puis le propriétaire initial n'a pas à avoir l'information sur les réparations menées sur la voiture qu'il a vendue à son voisin. Donc ce POC a un intérêt industriel pour Peugeot, qui va pouvoir lutter contre la fraude, et il a un intérêt R&D, puisque tous les verrous ont d'abord été identifiés. Au sein du groupe, il y a une trentaine de chercheurs qui travaillent sur ce POC, et on a identifié d'abord les verrous techniques, puis technologiques, puis les verrous juridiques, et puis au fur et à mesure de l'avancée du POC, on a trouvé de nouveaux verrous qu'on n'avait pas imaginés, comme le respect de la RGPD par exemple, puisqu'on va être en plein dedans. Les problématiques liées aux données personnelles, il faut savoir qu'un VIN, donc Vehicle Identification Number, sur une voiture, c'est une donnée personnelle telle que classifiée par la CNIL. Et donc, il a fallu mettre en place des parades, donc des crypto-homomorphes, des pseudonymisations. On travaille beaucoup avec l'INRIA pour également résoudre les problématiques de temps liées au consensus de validation. Parce que tant que vous avez quelques transactions par jour, ce n'est pas un verrou. Quand vous avez 2 millions de véhicules qui envoient des informations toutes les heures, ça commence à être un petit peu différent. Donc le travail sur le consensus est également pris en compte. Et au sein de l'IRT, on a démontré, là en septembre, on a fait une journée porte ouverte pour démontrer ce POC. Et le hasard du calendrier a voulu que la date de présentation du POC à l'IRT, donc qui s'adresse plutôt aux universitaires et aux industriels, correspondait avec l'annonce tonitruante de Renault, qui a décidé de faire la même chose et qui l'a annoncé ce jour-là dans la presse. Donc là, on voit bien que l'usage de la blockchain en tant que registre distribué permettant de partager des informations, de lutter contre la fraude, a un intérêt industriel et a une réalité économique surtout, puisque on pourrait très bien se dire ce carnet d'entretien, on va le mettre sur une très grosse base SQL ou Oracle, et puis permissionner à l'envi ceux qui peuvent y avoir accès, donc le réparateur, le propriétaire, le futur propriétaire. Et puis, il faut prendre en compte d'autres acteurs comme les douanes, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, qui, eux aussi, veulent savoir ce qui se passe sur le véhicule. Alors, pas le kilométrage, hein, je vous rassure, mais d'autres éléments. Et donc, ce POC industriel, aujourd'hui, prend une tournure un peu différente, puisque d'autres constructeurs, notamment américains, ont lancé les mêmes études. Le dernier point d'interrogation aujourd'hui, c'est que nous l'avons fait avec Peugeot, d'autres start-up l'ont fait avec Renault, General Motors aux États-Unis commence à le faire avec d'autres start-up américaines. Et l'idée est venue de dire, si cette blockchain qui remonte les kilométrages de voitures pouvait être partagée entre tous les constructeurs, ça serait quand même un registre fantastique pour suivre la vie d'une voiture et valider, en dehors de toute guerre de chapelle, puisqu'on est sur une blockchain, avoir le suivi et le kilométrage de l'ensemble des véhicules circulant dans un parc. Et là, on s'est retrouvé exactement dans la même configuration qu'une société dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Everledger, qui a percé ce qu'elle a mis sur le marché, un produit qui est le référencement des diamants, qui aurait très bien pu être mis dans une très grosse base de données Oracle ou SQL et partagé par l'ensemble des assureurs, sauf que, pour différentes raisons qu'on ne va pas analyser là, les assureurs entre eux ne voulaient pas partager les données. Le registre distribué pseudonymisé a permis de partager les données entre des acteurs concurrents qui ne voulaient pas partager ces données et qui pourtant aujourd'hui sont extrêmement contents de pouvoir vérifier si le Kimberley du diamant qu'ils ont entre les mains n'a pas été volé, appartient bien à celui qui se prévaut de sa propriété, et Everledger explose dans son business case. Pense que le carnet d'entretien est le diamant du monde du véhicule. Je vous l'accorde, hein, la parabole est un peu osée. Mais ce qu'il faut retenir de ces différentes expérimentations, c'est que le registre partagé a énormément d'applications. Et dans ces blockchains que nous utilisons, nous sommes basés sur Ethereum, hein, il n'y a pas de crypto-monnaie. Aucune. Donc là, on voit bien que d'une technologie Bitcoin dédiée à la finance, puisqu'il était vraiment conçu pour échanger des valeurs monétaires, on est passé à l'usage de la technologie sous-jacente, la technologie blockchain, d'une base de données répartie, immuable et stable à tout instant. Donc ces deux expérimentations, on essaye de rapprocher Peugeot et Renault pour essayer de les faire dialoguer sur la même blockchain. On en est au début, hein. Je vais prendre peut-être un certain temps. Mais je peux, sans prendre trop de risques, parier qu'à un horizon de 18 à 24 mois, on verra naître une blockchain répertoriant à minima le kilométrage des voitures. Et on peut rêver à ce que cette blockchain capte l'ensemble des informations liées à la vie de la voiture et soit partageable par l'ensemble des acteurs de l'automobile, y compris vous ou moi qui veut acheter une voiture d'occasion et qui aimerait bien ne pas se faire avoir quand il voit un Q5 à 10 000 euros avec 50 000 km. Bon, là, il y a peut-être d'autres facteurs à vérifier. Mais on pourra au moins vérifier que dans la blockchain, ce véhicule a bien suivi l'ensemble des révisions nécessaires, a bien remonté des kilométrages cohérents tout au long de sa vie, et donc qu'il n'y a pas de menace de fraude sur ce véhicule. La contrepartie pour les constructeurs, c'est qu'ils vont pouvoir valoriser cette garantie de non-fraude en passant par le réseau qui sera le consortium hébergeur de la blockchain. Ils vont pouvoir garantir que leur véhicule d'occasion a bien le kilométrage annoncé et a bien toutes les révisions annoncées dans le registre. Donc voilà un autre cas d'usage industriel. Alors je disais, moi je suis assez industriel industriel et business comme orientation, mais ce sont vraiment des cas qui ont à la fois un ROI et qui peuvent être générateurs de marge.
En tout cas, merci pour tous ces cas d'usage. On va peut-être passer une petite partie conseil sur la mise en place de projets blockchain. Quels sont un peu les obstacles, justement, donc on a un petit peu évoqué avec Jean-Paul sur le côté juridique. Et peut-être, Claire, parler effectivement des obstacles que les entreprises rencontrent souvent.
Effectivement, alors je pense qu'un premier obstacle qui est très clair, et Nicolas en a déjà un peu parlé aussi, c'est l'éducation tout simplement des collaborateurs. Et nous on a remarqué que quand on se lançait dans un projet de POC, voire de mise en production, et que certains collaborateurs métiers n'étaient pas formés sur ce qu'est une blockchain et à quoi ça sert, ben, globalement le projet allait forcément être ralenti, puisqu'il allait falloir réexpliquer au cours du projet bien finalement toutes les bases de la technologie. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel, dès le début, de former les équipes qui vont intervenir sur les projets. Et le deuxième obstacle, à mon avis, là aussi on en a un peu parlé, mais je pense que ça vaudrait le coup d'en parler plus longtemps, c'est l'obstacle juridique, puisqu'aujourd'hui il y a une certaine forme de flou, à la fois sur le statut des crypto-monnaies, sur la validité juridique, on en a parlé d'une inscription dans la blockchain, sur le statut des smart contracts, sur la responsabilité. Bref, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, et souvent, dans la plupart même des projets qu'on mène, je dirais que l'entreprise n'a pas le réflexe de se pencher sur ces questions juridiques dès le départ. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, nous, que depuis quelques mois, on propose un service d'accompagnement juridique supplémentaire pour vraiment anticiper les problématiques qui vont se poser au cours du projet et tout simplement être au courant dès le départ de ce qu'il faut faire dans le POC pour qu'il y ait une chance que le projet marche et passe en production au final. Donc pour moi, ça c'est vraiment un enjeu clé et c'est important d'avoir des personnes qui justement ont, font vraiment de la veille sur le sujet parce que la régulation évolue tous les jours. On a vu cette semaine que la Direction générale du Trésor a annoncé son projet d'ordonnance. Donc véritablement, je pense que c'est un gros enjeu.
Vous pensez qu'effectivement en France, on va dans la bonne direction en tout cas ?
Je pense qu'on va dans la bonne direction puisque l'annonce de la Direction générale du Trésor ouvrait la porte, on va dire, à un vrai statut des technologies blockchain, à une reconnaissance des inscriptions dans la blockchain. Après, pour l'instant, tout est renvoyé en décret. Donc c'est compliqué d'être fixé aujourd'hui sur la validité des preuves, etc. Mais je pense qu'on va dans la bonne direction, oui.
Nicolas, peut-être aussi, si vous avez des obstacles, peut-être que vous voulez nous parler pièges à POC.
Oui, en complément de ce qu'a dit Claire, il y a trois choses à avoir en tête. Première chose, blockchain et Bitcoin, c'est différent. Même si blockchain a démarré avec Bitcoin, il y a une confusion des deux. Et il y a une confusion des deux, et comme Bitcoin porte un certain nombre de doutes, en termes macroéconomiques, c'est une monnaie qui n'est pas fondée sur une dette d'un État. Donc le sens de cette monnaie est quand même questionnable. Hein. Donc certains parlent d'un schéma de Ponzi sur cette monnaie. Donc il y a ce doute-là. Il y a le fait que l'ensemble des hackings se font et des hackers se font payer en Bitcoin. Et donc il y a une confusion dans la tête d'un certain nombre de décideurs et de dirigeants sur les mots qu'on porte à Bitcoin et sur la blockchain. Et donc cette confusion, il faut la traiter par de l'éducation. Le deuxième sujet sont les pièges à POC. J'ai croisé différentes entreprises qui me disent « J'ai fait mon 30e POC sur blockchain, je vais lancer mon 31e. » Super. La question, c'est pas d'en porter beaucoup, c'est lié au choix des problèmes et des solutions. Il faut en démarrer, et c'est ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est quoi les problèmes que je veux résoudre, c'est quoi les deux cas d'usage, et je vais jusqu'au bout. Et de temps en temps, je vais me prendre le mur du juridique, je vais me prendre le mur du régulateur. Mais mon Dieu, il ne faut pas faire des milliers de POC, il faut en faire quelques-uns qui répondent à des vrais problèmes et y aller jusqu'au bout en persistant. Et un POC industrialisé, ça prend minimum 18 mois. Donc ça prend du temps. Et ça, il faut se donner le temps et surtout pas changer fusil d'épaule. Et le tout en servant l'entreprise. Et donc, il faut que ça réponde aux vrais problèmes de l'entreprise. Donc voilà les trois dangers et les trois manières de les traiter.
Et Claire, vous avez peut-être un exemple à nous donner, mais plutôt d'un échec cette fois.
Alors un échec, je ne dirais pas ça, mais effectivement, en tout cas un POC qui est en attente, justement, parce que certaines choses n'avaient pas été anticipées au départ. Et on en a déjà un peu parlé aussi, c'est un POC qui concerne la traçabilité dans le secteur automobile. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de ce POC que finalement, les partenaires qu'on pensait impliqués dans le système blockchain qu'on créait n'avaient pas forcément vocation, selon le métier, à porter leur part de responsabilité dans le système. Et donc, il allait être probablement plus pertinent pour eux de se connecter tout simplement à une plateforme web classique que d'aller gérer leurs propres clés, d'aller héberger leurs nœuds, même avec une solution SaaS, finalement, le plus simple n'allait pas forcément être la technologie blockchain. Et donc la question qui se pose aujourd'hui pour l'entreprise, c'est est-ce que je pars sur une technologie centralisée classique ou est-ce que je crée quand même un système sur blockchain en me disant que j'anticipe l'avenir où potentiellement ces partenaires-là auront envie d'assumer leur part de responsabilité et où on fonctionnera dans un système plus ouvert. Donc aujourd'hui, l'entreprise est en train de se poser ces questions-là, qui n'avaient pas été posées forcément au départ du projet, où on s'était dit, bon, finalement, on y va, les partenaires viendront avec nous après. Et finalement, ça aurait valu le coup, dès le départ de ce projet, d'étudier plus en avant cette question-là.
Très bien. Et peut-être, pour terminer, une question un peu prospective. Je vais me tourner vers vous, Olivier Sénaud, mais voilà, quelles problématiques vont devoir être traitées, on va dire, après. Voilà.
Alors, on les a un peu toutes passées en revue. On est très, très impliqués sur la prospective, notamment pour le passage à l'échelle, puisque aujourd'hui, allier sécurité et transactions en masse dans une blockchain, Ça reste une vraie question. Donc on a deux grandes pistes qu'il va falloir éclaircir et qui sont en passe de l'être. La première, on vient d'en parler, c'est la piste juridique. Donc le législateur est très informé, puisque beaucoup de groupes travaillent justement à l'éducation de nos législateurs, simplement pour leur expliquer ce qu'est la blockchain, les bienfaits. Hein, plusieurs groupes gouvernementaux qui ont organisé un certain nombre de sessions. Donc le problème juridique qui va être levé, je ne sais pas comment, mais qui va être levé. Et puis derrière, c'est le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est l'équilibre entre la sécurité et le coût lié à la sécurité, l'immuabilité, la robustesse de la blockchain. Ça, ce sont d'autres partenaires qui travaillent. Donc on a parlé de l'INRIA, on a parlé de Systemix. Et il y a un certain nombre, il y a le MIT aux États-Unis qui s'est penché sur des nouveaux protocoles de consensus. Et puis, oui, il y a énormément de groupes qui travaillent sur des nouveaux consensus très sécurisés et peu gourmands en énergie, pour faire un raccourci rapide. Le troisième point, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est les IoT. Les IoT vont utiliser à très court terme la blockchain comme colonne vertébrale pour transmettre de l'information sécurisée, pour ouvrir des portes, pour alerter sur du smart contract paramétrique. Et beaucoup de mutuelles, par exemple, on ne les attendait pas forcément là, travaillent sur l'IoT plus la blockchain pour faire remonter de l'information de matériel embarqué sur des patients. Alors, le matériel le plus répandu, c'est le pacemaker, hein, évidemment. Et l'idée, c'est de pouvoir remonter de l'information en temps réel sur ce pacemaker et générer des alertes automatiques. Quand on parle de récolter des informations de santé en live sur un patient, il y a quelques ampoules de sécurité qui doivent s'allumer, enfin en principe. Et donc, c'est là qu'entrent en jeu les nouveaux algorithmes et les nouveaux processus qui vont permettre aux IoT qui ne sont pas programmés par des informaticiens, qui ne sont pas gérés au niveau sécurité, d'embarquer des protocoles de sécurité distribués, alors je vous passe les éléments techniques, qui vont leur permettre d'acquérir cette sécurité dans la transmission d'informations. On a dit tout à l'heure que les tiers de confiance étaient... M'arrêtez, hein. Les tiers de confiance étaient reportés sur la périphérie de la blockchain. C'est exactement pareil pour la sécurité. On a tous en tête cet événement de la bouilloire anglaise, où un hacker a réussi à pénétrer un réseau d'entreprises ultra sécurisé, simplement parce qu'un développeur avait branché une bouilloire connectée qui lui faisait un pop-up sur son écran quand l'eau était chaude. Sauf que la liaison Wi-Fi qui était entre son PC et la bouilloire n'était absolument pas sécurisée, et c'est par là que sont entrés les hackers dans le réseau d'entreprises. Laisse imaginer, alors ça vous pourrez le retrouver, hein, c'est une anecdote qui tourne en boucle. Donc voilà, la sécurité, la confiance étant sortie à la périphérie de la blockchain qui elle est extrêmement robuste, hein, puisque la technologie blockchain et particulièrement la technologie Bitcoin n'a jamais été hackée en 8 ans. Personne n'a jamais réussi à casser le code. Ils ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Donc c'est un système extrêmement robuste par conception. Par contre, c'est toujours en périphérie, c'est au moment des péages qu'on peut avoir un certain nombre de problèmes. Donc, une fois qu'on aura résolu le juridique, qu'on aura résolu les problèmes de sécurité et d'équilibre dont on vient de parler, on aura devant nous le champ libre pour appliquer à l'entreprise, et je rejoins là un petit camarade, dans l'intérêt de l'entreprise, pas faire une blockchain pour faire une blockchain, cette technologie au service des processus internes ou externes de l'entreprise.
Merci. Et est-ce que quelqu'un veut conclure ou ajouter un mot sur effectivement ces obstacles ou...
Alors moi, je vais juste dire un mot, c'est que Pour moi, la blockchain, elle a été créée pour permettre de survivre dans un environnement hostile. Les racines de Bitcoin, c'est le crypto-anarchisme, mais on veut donner le pouvoir aux individus. Donc, et par extension, les cas d'usage de la blockchain, il faut bien avoir conscience que ce sera d'autant plus efficace quand on est dans un environnement où les gens ne se font pas confiance de base. Donc, envisager une solution blockchain entre trois entreprises qui se connaissent très bien, qui peuvent très bien mettre en place une base de données MySQL avec un peu de cryptographie dedans pour faire le contrôle d'intégrité, ce sera forcément beaucoup plus efficace que mettre toute la machinerie blockchain qui, elle, a besoin d'être hyper résiliente parce qu'elle est antifragile par définition. Voilà, je voulais juste rajouter ça.
Très bien, merci. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, il y a Pauline qui arrive avec un micro.
Geneviève Boucher, je voudrais revenir sur l'exemple de la voiture, du projet que vous faites avec Peugeot et Renault fait. Voilà. On est tenté de dire, mais que fait l'État ? Parce que c'est lui qui a immatriculé les véhicules, il a déjà fait une plaque pérenne. Le scénario que vous imaginez, il va reprendre la main ou il va se greffer ? Dans ce que vous avez dit, il se greffe sur le projet, même si ça coagule, que fait l'État, quoi ?
Alors, que fait l'État ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. Ce qui est certain, c'est que l'État ne sera pas, à ce jour, hein, attention, l'avenir me contredira peut-être, ne sera pas l'opérateur, l'instigateur, l'organisateur ou éventuellement le garant d'une blockchain. C'est forcément dévolu par les lois européennes au secteur privé. Donc c'est à Peugeot, Renault, GM, Opel et tous les autres à s'organiser pour créer cette blockchain sur lequel, par contre, l'État voudra probablement avoir un droit de regard. Puisqu'on a trois ministères régaliens qui ont déjà un droit de regard sur ces informations et qui voudront y accéder. L'idée peut-être que vous avez en tête, c'est pourquoi l'État ne met pas en œuvre une blockchain étatique qui permettrait d'avoir une certaine garantie, puisqu'on peut imaginer que l'État se pose en tiers de confiance, ce qui est a priori le cas. Eh bien, je ne sais pas répondre. Je ne pense pas qu'elle le fera. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas du tout l'orientation des discussions que l'on a avec les législateurs. Mais tout peut évoluer. On peut imaginer un jour l'État mettre sur la blockchain, comme le Honduras l'a fait, créer une blockchain sur laquelle elle va positionner l'ensemble des cadastres pour lutter contre la corruption. Pourquoi pas l'État qui mettra sur une blockchain un certain nombre d'informations pour lutter contre un des maux de notre société, je ne sais pas lequel, la corruption, la fraude ou tout autre. Mais à ce jour, je n'ai pas d'informations en ce sens. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens des discussions. Du moins, aujourd'hui, ce n'est pas le sens des discussions. Est-ce que ça aurait un sens ? Peut-être. C'est à réfléchir. Ça fait partie des thèmes abordés dans un certain nombre de think tanks autour de la blockchain. Mais je suis désolé, je n'ai pas de réponse absolue à vous donner. Peut-être, Gilles ?
Moi, je voulais dire que dans le cas où les données sur les automobiles étaient sécurisées via une blockchain ouverte, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la blockchain comme une base de données, on ne va pas y mettre les informations, on va y mettre juste des preuves qui ne sont pas exploitables, que personne d'extérieur qui n'a pas les données ne peut pas vérifier, l'État peut très bien intervenir en auditeur pour pouvoir vérifier, constater des informations, parce que l'État aura les informations nécessaires pour vérifier, et que à la source de la confiance de la donnée, elles auront été liées en fait à une blockchain ouverte que n'importe qui, donc l'État mais pas seulement, n'importe quel tiers à qui on aura donné le droit de vérifier des informations, aura toujours un pouvoir d'audit. Voilà. Donc c'est l'avantage d'avoir des systèmes ouverts par rapport à des systèmes à tickets en fait qui demandent de, voilà, de rentrer, de demander la permission à un acteur, et au final ça devient antinomique avec vraiment l'idée de base de la blockchain.
Une autre question ?
Bonjour Pierre Loire, je me posais une question concernant un point que vous n'avez pas abordé, mais je suis tout sauf quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en blockchain, j'ai vraiment peu compris le fonctionnement encore aujourd'hui, mais au sujet de l'ordinateur quantique, alors, apparemment c'est une technologie qui risque de mettre en danger la blockchain, ce sont les différents interlocuteurs à qui j'ai pu parler. Donc, n'étant ni un maître de l'un ni de l'autre, j'aimerais savoir quelle est votre opinion à ce sujet, s'il vous plaît.
Alors, oui, c'est effectivement une question qui se pose, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de blockchains publiques, notamment Bitcoin, qui fonctionnent sur des logiques de puissance de calcul, de résolution d'équations cryptographiques, et donc à partir du moment où les ordinateurs quantiques permettrait d'aller beaucoup plus rapidement sur certains calculs, il permettrait de craquer certaines fonctions spécifiques sur ces blockchains-là. Alors, donc c'est une bonne question. Après, aujourd'hui, on n'en est pas encore à un stade particulièrement dramatique sur ce sujet. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que le jour où il y aura des ordinateurs quantiques qui fonctionneront véritablement, déjà, je pense qu'on aura potentiellement d'autres problèmes que la blockchain. Et puis ensuite, je pense, en tout cas j'ai l'espoir, que les technologies blockchain s'adapteront tout simplement en utilisant d'autres types de fonctions qui seront résistantes aux ordinateurs quantiques. Et il y a déjà des projets blockchain dans ce sens justement. Je ne sais pas si Gilles, tu veux dire un mot. Mais...
C'est exactement ça. En fait, il y a déjà des groupes de travail sur ces sujets, sur de la cryptographie quantique pour répondre à l'ordinateur quantique. En fait, pour moi, ce n'est pas véritablement un risque. Voilà. Les technologies vont devoir s'adapter avec l'ordinateur quantique quand il arrivera, parce que c'est une chimère, hein, pour l'instant il n'existe pas vraiment.
Merci. Je crois qu'il y avait deux questions devant. Ah, une d'abord là-bas.
Bonjour, j'aurais une question pour Claire, par exemple. On a beaucoup parlé donc de finances et aussi un petit peu d'automobile ou de stockage de documents avec Wallet. J'aurais aimé savoir quels sont les autres secteurs qui s'intéressent à la blockchain ou sur lesquels il y a un avenir pour cette technologie.
Alors, les secteurs sont très nombreux, en fait. Effectivement, la finance, c'est le premier secteur qui s'y est intéressé. La blockchain a quand même comme pour premier cas d'usage la crypto-monnaie. Donc, c'est assez logique que la finance y soit intéressée en premier. Mais parmi les autres secteurs, on a notamment le secteur assurantiel, on a aussi le secteur du divertissement au sens large, je dirais, avec le secteur de la musique qui s'y intéresse notamment pour la gestion des droits, le secteur des loisirs qui s'y intéresse également pour, par exemple, la billetterie ou la fidélisation client. On a le secteur de la supply chain. Alors, c'est même pas un secteur, en fait, puisque finalement, la supply chain, c'est quelque chose d'assez transverse à de très nombreux secteurs. Donc, aujourd'hui, je dirais que ça peut véritablement concerner tous les secteurs, mais sur certains métiers spécifiques. Voilà.
Alors, il y avait des questions juste devant, il me semble. Voilà, le monsieur là-bas.
Bonjour, j'ai cru comprendre que la blockchain se rallongeait au fur et à mesure que des événements concernent les objets dont on parle. Si ça se rallonge, ça va supposer des codages de plus en plus longs. Donc, ma question est, quid de l'énergie consommée pour faire marcher ce système ?
Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a effectivement, le poids, enfin le nombre de gigas que pèse une blockchain, donc cette base de données. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, la blockchain la plus lourde, c'est probablement Bitcoin, qui doit être à 130 gigas, quelque chose comme ça. Et les autres blockchains, alors par exemple, Ethereum doit être à 40 ou 50. Donc ça reste, on va dire, une taille qui est gérable, puisque c'est stockable sur un disque dur presque classique. Mais effectivement, on voit bien que forcément la taille va augmenter. Alors il y a plusieurs théories. Vous avez ceux qui disent... c'est pas grave, puisque les technologies et les capacités de stockage vont augmenter de manière quasi exponentielle, et donc finalement ce sera pas un problème. Et puis vous avez ceux qui disent ce sera un problème, et donc on va chercher à diminuer la taille justement de ces bases de données, de ces blockchains. Et donc il y a des projets qui vont par exemple consister à stocker un certain nombre d'informations hors de la chaîne et à ne garder dans une blockchain que ce qui est vraiment essentiel pour, entre autres, pour diminuer sa taille. Donc c'est une des pistes. Après, sur l'énergie consommée, c'est quelque part presque un autre sujet, puisqu'aujourd'hui, la problématique de l'énergie consommée, elle se pose essentiellement dans la validation des blocs de transactions. Et ça se pose uniquement déjà pour certaines blockchains, pas pour d'autres. Et en fait, ce qu'il faudrait vraiment faire, si on voulait être rigoureux, c'est comparer cette énergie consommée avec l'énergie consommée par le système bancaire, et par les terminaux de carte bleue, par exemple. Et aujourd'hui, même s'il y a des études qui ont été, qui sont assez estimatives, mais qui ont été faites sur la quantité d'énergie consommée par des blockchains comme Bitcoin, il n'y en a aucune qui les compare vraiment à l'énergie consommée par le système bancaire. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire pour être rigoureux là-dessus.
Je rajouterais que, en fait, ma vision personnelle de la blockchain, c'est que, exactement comme pour Internet, on a commencé par plusieurs innovations. On a commencé par des protocoles de base qui étaient assez rustiques, qui étaient limités, mais justement parce qu'il fallait construire par-dessus. Et je pense que l'avenir de la blockchain, c'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est utiliser une source de confiance qui est limitée, mais hyper robuste et hyper pérenne. C'est-à-dire qu'on veut retrouver nos transactions dans 10 ans. Et au-dessus, on rajoute de l'ingénierie qui, par exemple, rajoute de la scalabilité. Aujourd'hui, on fait une transaction Bitcoin dans la blockchain, on est capable de sécuriser 100 000 documents avec une seule transaction Bitcoin. Donc pour moi, l'avenir, c'est une architecture en couche. On va avoir d'autres innovations. On est vraiment sur une technologie jeune. Et si on compare Internet, on est en 92. On doit envoyer des mails encore avec en ligne de commande. Et on a besoin d'ingénierie. Alors il y a plein de projets qui arrivent qui disent « on va faire Netflix en 92 ». Nous, on dit, c'est pas possible, il faut attendre que les infrastructures, les protocoles, les normes se mettent en place et plus d'ingénierie qui vont arriver à des cas d'usage un peu onirique qu'on entend par-ci par-là.
Hop, autre question. Voilà.
Deux questions. Une première, c'est à quel moment vous recommandez de passer d'une technologie blockchain personnelle comme la Banque de France et les banques qui travaillent avec elle à quelque chose d'ouvert, Ethereum ou Bitcoin comme vous l'avez fait, à quel moment? Et puis j'ai l'impression dans vos expériences que vous avez citées qu'il y a toujours un partenariat avec une start-up, vous l'avez souvent cité. Est-ce que c'est la condition nécessaire pour réussir un projet blockchain?
Étant donné que je ne suis pas start-up, c'est peut-être plus simple pour moi de répondre. Oui, je pense que c'est essentiel pour nous, ce que je ne me vois pas. En fait, déjà, là, je serais peut-être... Il y a peut-être un avis différent. De notre point de vue, pour nous, grosse entreprise, recruter un informaticien qui soit spécialiste blockchain, c'est une perle rare. Je pense qu'on n'a pas les moyens de la trouver, en fait. On n'a pas les moyens de la garder non plus. Je pense qu'elle est plutôt dans l'univers start-up. Et donc, on n'a pas vocation à monter de la compétence véritablement sur blockchain, en fait, en termes de développement. Voilà. Donc, voilà pourquoi on s'adresse. Et on n'a pas forcément aussi de base les connaissances techniques générales sur la blockchain en tant que décideur, en fait, de projet. Donc, je pense que passer par une start-up est, de mon point de vue, assez indispensable. Parce qu'on n'a pas cette connaissance, parce qu'ils ont une expérience qu'on n'a pas encore. La technologie est relativement jeune chez nous. Donc ils apportent cette expérience, cette montée en compétences, cette expertise technique qui serait difficile pour nous d'acquérir avant de lancer le projet, en fait.
Je complète. Il y a en gros un gros millier de startups dans le monde qui ont reçu de l'ordre de 2 milliards de dollars de VC money. Pour travailler sur blockchain. Et donc, elle démarrait d'abord sur les protocoles Bitcoin, et maintenant, on voit l'ensemble des protocoles qui défilent. Et donc, il y a un écosystème de start-up. Ces start-up, elles ont été fundées essentiellement depuis 2014. C'est là où ça a commencé à prendre. Elles sont matures et elles sont là pour fusionner, et elles sont là pour être offertes au marché, aux corporates qui peuvent les utiliser. Et donc il y a une offre, c'est une offre qui est très diffuse. Ensuite, il y a des grands acteurs industriels, des grands acteurs du tech qui investissent tous là-dedans. Et enfin, il y a le débat de trouver ces talents qui sont très rares, très spécifiques, et qui nécessitent, et donc Claire me disait, t'es des développeurs, ils veulent travailler de chez eux, avec des casques, en écoutant de la musique en permanence, et moi j'ai des clients, les développeurs ils veulent arriver avec leur chien. Voilà, donc comment est-ce que vous faites pour accueillir dans une entreprise des profils qui sont si atypiques, si volatiles, et si férus d'une série qui s'appelle Silicon Valley, et qui veulent tout?
Juste pour répondre à votre première question sur quand passer en public, alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certains cas d'usage qui peuvent assez facilement être directement mis en production sur des blockchains publiques. Typiquement, quand Gilles parlait tout à l'heure de son application, ça fonctionne directement sur la blockchain publique Bitcoin. Tous les cas de certification d'intégrité de données numériques, quelque part, ils peuvent directement être mis en place sur des blockchains publiques. C'est même le concept, finalement, parce que si on est sur une blockchain privée, la confiance dans la certification qu'on a est un peu plus limitée. Après, il y a certains autres cas d'usage, par exemple celui qu'on a mené avec la Banque de France, où là, effectivement, on est obligé de commencer sur une blockchain privée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a certaines exigences au niveau du fonctionnement du protocole qui peuvent être spécifiques au cas d'usage. Et ensuite, parce qu'il y a des enjeux de confidentialité des données, voire ensuite des enjeux juridiques qui viennent se greffer par-dessus. Donc c'est souvent obligatoire aujourd'hui, hormis des projets de certification de données, de commencer sur des blockchains privées. Je pense qu'on sera amené à passer sur des blockchains publiques une fois que les enjeux juridiques auront été résolus, et surtout une fois que les protocoles seront techniquement un peu plus matures. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que, à part Bitcoin, quoique, aujourd'hui, tous les protocoles sont encore en R&D, en fait. Donc tous les 6 mois, vous avez des forks avec des nouvelles versions des protocoles publics. Donc si vous voulez mettre en place une application qui est basée sur ces protocoles et qui fonctionne vraiment sur ces protocoles au quotidien, ça peut être compliqué, hormis encore une fois les cas de certification.
Et avec une précision, dans la blockchain privée que décrit Claire, c'est une blockchain privée de consortium. Et donc vous pouvez travailler dans un consortium d'acteurs et décider de créer une blockchain privée. Et donc on distingue la blockchain privée au sein de l'entreprise, la blockchain privée de consortium. Et donc ça, il y a différents niveaux. Et donc vous pouvez travailler, mettons, entre deux sites. Je sais pas, vous voulez échanger des dollars, des pounds et de l'euro. Et entre deux salles de marché, vous créez une blockchain privée dans votre banque. Ensuite, vous voulez créer un identifiant SEPA rapidement. Et là, c'est la Banque de France et les grands acteurs bancaires. Et donc, c'est une blockchain de consortium privé. Et donc, il y a différents niveaux. Et c'est là où il faut choisir. Mais c'est en général entre deux entités ou entre un consortium. Et puis ensuite, il y a la blockchain qui repose sur Bitcoin, qui est un autre objet.
Une dernière question. Oui.
Oui. Alors, ma question, elle était pour Nicolas Harlet. Vous avez parlé tout à l'heure de cas IBM Walmart. Alors, moi, j'avais entendu début d'année, ils vont lancer le POC. Là, il y a quelques mois, ils ont dit, ça marche déjà. Alors, est-ce que c'est juste un effet de wow, ou est-ce qu'ils avaient déjà une traçabilité qui est hyper forte pour pouvoir alimenter le Bitcoin, parce que comme, la blockchain, parce que comme vous l'avez bien expliqué, ça ne dit pas que l'information, elle est vraie. Ça vous dit juste que l'information, elle est authentique. Donc si l'éleveur, il met une information qui est fausse, il vous dit que l'information fausse est authentique.
Et donc c'est toute la problématique de la confiance à la périphérie. Et donc il faut que ce qui s'appelle les oracles, et donc que des acteurs certifient l'acte de vérité de vétérinaire. Et donc ils ont mis en place une filière où dans les élevages, dans les abattoirs et dans les transporteurs, il y a ce qui s'appelle des oracles, hein, donc ce qui était décrit tout à l'heure. Ces oracles jugent que l'information est vraie. Et donc si l'information est corrompue à l'élevage, à l'abattoir ou dans le transport, effectivement, mauvaise qualité d'information sera diffusée. Et donc là, la question, c'est comment vous certifiez les oracles et comment vous validez les oracles. Et donc ça, ça peut se faire, et donc ça peut se faire par des certificateurs. Et donc il y a des huissiers, des phénomènes d'huissiers pour certifier que l'information est vraie. Mais cela restera un problème fondamental. On a déplacé, la blockchain déplace la confiance et la sécurité à la périphérie. Et ça, ça suppose de bien choisir quelles informations vous faites rentrer dans une blockchain. Et c'est un sujet principal. Je ne sais pas si tu veux commenter.
Oui, c'est un peu comme jeter un caillou au milieu d'une flaque d'eau. Ça fait des ondes et vous avez des cercles concentriques qui s'éloignent de plus en plus du centre. Aujourd'hui, on est dans un environnement d'entreprise dans lequel la confiance est au centre. On a des tiers de confiance, donc les banques, les assurances, Docapost, et un tiers de confiance dans lequel toutes les entreprises vont venir verser leurs informations qu'elles veulent, soit certifiées, soit opposées, auprès soit d'un spécialiste, soit d'un généraliste. Quand on éclate ce tiers de confiance central et qu'on l'envoie à la périphérie au profit de la blockchain au centre, il va falloir que tout autour de la périphérie, on remette en place des tiers de confiance capables de certifier que la viande vient bien de tel élevage. Et pour le certifier, on ne va pas réinventer la roue. Ça existe déjà aujourd'hui. Un vétérinaire, il vient, il constate. En tant que vétérinaire, il a une aura. Il a surtout ses qualifications, ses certifications, et il va certifier que le cochon ou l'élevage de cochon qui est devant lui a bien mangé de la culture bio si c'est bio, a bien mangé des céréales dénuées d'OGM si c'est l'objet de la certification. Et donc tous ces tiers de confiance, tous ces tiers certificateurs qui existent déjà, au lieu d'être centraux au processus, vont être mis à la périphérie. Mais il faudra les conserver, sinon l'objet de la blockchain qui est de garantir la véracité et l'authenticité d'une information, effectivement, si cette information est fausse, elle va garantir l'authenticité d'une fausse information. Et donc, les tiers de confiance se repositionnent actuellement, et on le voit, que ce soit dans la banque, dans l'identité, ou dans les tiers de confiance traditionnels, documentaires, à la périphérie de la blockchain, avec les mêmes technologies utilisées aujourd'hui en système centralisé. Donc la révolution, elle tient plus dans dans le cas d'usage business. Qu'est-ce que la blockchain va m'apporter comme valeur ajoutée sur mon processus actuel? Ou dans le cas d'Everledger, je crée une activité que je n'aurais pas pu créer en dehors de la blockchain. Parce que par construction, la blockchain m'apporte la transparence, la traçabilité et la solidité. Donc c'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser, plutôt que de savoir est-ce qu'on supprime définitivement les tiers de confiance. La question n'est plus là. C'était la question qui animait les débats partout autour du monde en 2014-2015. Bon, les industriels sont revenus sur Terre et se sont rendus compte qu'effectivement, la blockchain, c'était magnifique, mais si l'information au départ était fausse, on allait garantir une fausse information, ça s'appelle une vraie fausse carte d'identité, par exemple. Ce qui est un cas d'usage aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur regarde, puisqu'ils ont un certain nombre de milliers de cartes d'identité émises par la préfecture basées sur de faux dossiers. Donc on a introduit de fausses informations dans un système étatique, donc a priori tiers de confiance, et dans le cas d'usage régalien, pour émettre un titre qui est une carte d'identité qui est fausse. La personne qui porte cette carte d'identité n'est pas la personne qui est représentée sur cette carte d'identité. La blockchain, ça va être pareil. Et là aussi, on a éloigné à la périphérie la confiance, puisque les documents présentés sont faux. On n'a pas de moyen de les vérifier aujourd'hui. Alors, ça a changé, hein, n'essayez pas de faire des faux. Maintenant, ça a changé. On a les outils. Mais dans la traçabilité de la viande, ça va être exactement la même chose. C'est l'information entrée dans la blockchain qui doit être certifiée par un tiers de confiance.
Très bien. Une autre question ou... Peut-être monsieur devant, tout devant. Ce sera peut-être la dernière question puisqu'on dépasse là le quart d'heure autorisé. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la fin.
Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, c'est aujourd'hui les projets de blockchain fonctionnent plus en flux poussé, c'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes pensent à des manières de gagner de l'argent, des choses comme ça. Est-ce qu'un jour, pensez-vous qu'on serait dans plus du flux tiré, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui vont demander à avoir accès à la manière avec laquelle ils sont facturés par un opérateur téléphonique ou par leur assurance, etc. Et puis à quelle échelle de temps cela peut-il être réalisable? Merci.
Juste, en fait, moi je pense qu'on va y arriver rapidement, parce que ne serait-ce que sur la vérité numérique, la confiance numérique, à partir du moment où une entreprise aura l'habitude de travailler avec des données certifiées et vérifiables, elle ne comprendra pas qu'avec telle ou autre entreprise avec qui elle fait du business, ce ne soit pas le cas. Et elle va pouvoir exiger en fait que la source de confiance, on parlait de la confiance à la périphérie, moi je parle plutôt de la source de confiance, donc la source des données soit sécurisée parce qu'elle a l'habitude de fonctionner et qu'elle se sent elle-même plus en confiance pour travailler.
Très bien, bon, ben, merci à tous en tout cas d'être venus et si vous ne l'avez pas, prenez le livre blanc à la sortie. Merci.